Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Nous lirons dans Deutéronome chapitre 8 et le verset 1. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne pour que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes, duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point que de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or s'accroître, et tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, et dans des lieux arides, sans eau, et qui a fait jaillir pour toi l'eau du rocher, le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Amen. Nous avons tous des besoins différents. Nous avons tous des aspirations différentes, mais chacun a son chemin. Et il est assez aisé de reconnaître que dans notre chemin, il y a des fois des temps de désert, des temps d'incertitude, des temps de complications, peut-être des temps où on ne voit pas l'issue, où c'est long et c'est difficile. Eh bien, frères et sœurs, c'est dans ces moments-là, particulièrement dans les temps de désert, qu'il nous faut nous confier dans le Seigneur et compter sur sa grâce. Et nous attendre à ce qu'il pourvoie à nos besoins et ce qu'il nous nourrisse avec cette manne spirituelle et avec cette eau dont il a le pouvoir. La prière consiste à nous attendre à Dieu qui, lui, a toujours les solutions. Nous nous attendons à la grâce de Dieu, à la main de Dieu, à l'intervention de Dieu. Peut-être vous avez tâté dans le désert, vous avez tâtonné en essayant des solutions humaines, en cherchant auprès de vos amis, de vos collègues de travail, de votre famille. Mais les portes se sont fermées. Il y a des déserts comme ça où on se retrouve seul, isolé. Mais nous avons la prière de la foi. La prière de la foi, ça consiste à croire alors que tout semble perdu, alors que la situation est désespérée. La prière de la foi, c'est nous connecter avec Dieu et de croire qu'il va pourvoir alors que nous ne voyons pas encore les choses se manifester. Quand vous commencez à fermer les yeux aux choses de ce monde, vous pouvez les ouvrir dans la foi et vous dire « Oui, le Seigneur va intervenir. Oui, le Seigneur va faire grâce. » C'est ça la prière de la foi, La chose n'est pas encore là, mais vous croyez qu'elle va arriver par la foi. Je remarque dans ce texte d'abord la manne. Ce texte nous parle de la manne dans le désert. Et au verset 2, il nous dit de nous souvenir de tout le chemin. Tout ce chemin. Et ce chemin, il est long et ce chemin, il est difficile. C'est le chemin du désert. Et on a été éprouvé dans ce chemin. Peut-être on a connu la faim, on a connu la soif, on a connu des manquements. On s'est senti peut-être abandonné, trahi. On s'est senti mis de côté sur ce chemin désert. Mais souviens-toi de tout le chemin et souviens-toi que dans ce désert, il y a aussi les bienfaits de Dieu. Il y a aussi les grâces de Dieu. Il y a aussi le Seigneur qui renouvelle nos forces pendant la marche. Il y a aussi, au travers de ces épreuves, des expériences spirituelles. Et souvent, les plus grandes expériences spirituelles où on est le plus proche de Dieu, c'est dans les temps les plus difficiles, c'est dans les temps de désert. Et là, on doit apprendre à diriger nos pensées, non pas sur les choses visibles, mais diriger nos pensées vers celles qui sont invisibles, vers celles qui sont spirituelles. C'est un travail, c'est un effort. Et diriger nos pensées sur les bienfaits de Dieu, c'est... Parfois, nous prenons ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Apprenons à, dans ce chemin, ce long chemin, à compter les bienfaits de Dieu. Dieu a été fidèle envers son peuple et quand je lis ce texte, vous vous rappelez combien d'années ça a duré la traversée du désert entre l'Égypte et Canaan? 40 ans. 40 ans, ce n'est pas comme une semaine. Déjà, une semaine au désert, on trouvera que c'est très long. Peut-être on s'ennuiera, on souffrira de la chaleur, de la difficulté. Une semaine, un mois de désert. Mais qui peut imaginer 40 ans de traversée du désert? 40 ans, ça me fait penser presque à une vie de cotisation pour la sécurité sociale pour la retraite. Mais ça augmente. Parce que c'est plus 40 aujourd'hui. C'est plutôt 43. C'est-à-dire que plus on s'en approche, plus elle semble s'éloigner. Mais enfin, c'est long 40 ans dans une vie. 40 ans, c'est presque la moitié d'une vie en moyenne. 40 ans, c'est une grande partie de notre vie. Imaginez une vie de désert. Eh bien, pendant ces 40 ans, la Bible dit que l'Éternel a été fidèle avec son peuple et qu'il ne les a pas abandonnés. Eh bien, de même que Dieu a été fidèle avec son peuple pendant les 40 ans de désert, nous croyons ce matin qu'il sera fidèle avec nous tout au long de notre vie. Jusqu'à l'arrivée, pour nous, c'est la patrie céleste, dans le ciel. J'ai pensé à ce verset de Deutéronome 31:8. « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. Il est là dans le désert. Il nous accompagne dans le désert. Et il nous ouvre les voies et il bénit. Certains se plaignent, c'est vrai, dans le désert. Le peuple n'a pas fait exception. Quand on lit l'histoire d'Israël, à plusieurs reprises, ils se sont retournés vers Moïse pour dire qu'ils regrettaient l'Égypte. Ils se plaignaient de Dieu, ils se plaignaient même de Moïse, ils se plaignaient des circonstances du désert, ils se plaignaient de beaucoup de choses, ils en avaient assez du désert, et peut-être c'est un peu le sentiment qui est dans notre cœur, on se plaint auprès de Dieu, qui nous a oubliés, qui nous a mis de côté, on se sent abandonné, et tout cela est faux, parce que quand on lit le texte, il est dit que Dieu a permis que même leurs vêtements ne s'est pas usé pendant les 40 ans. Leurs vêtements ne s'est pas usé. Et il dit que leurs pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Alors peut-être si on fait, nous, 10 kilomètres, allez, si on fait 10 kilomètres de randonnée, on aura un petit peu mal aux pieds quand même, les pieds enflés. Eux, pendant 40 ans, leurs pieds ne se sont pas enflés. Et pourtant, ils se plaignaient, et pourtant, ils se lamentaient auprès de Dieu, et ils en avaient assez. De même cette manne, il disait, cette misérable nourriture que Dieu nous donne. Il se plaignait et il n'était pas content. Alors ce texte nous dit plutôt, souvenez-vous et comptez la fidélité de Dieu et réjouissez-vous pour les grâces de Dieu. Il y a encore des choses à apprendre avec Dieu au verset 3. Il est question de la manne que tu ne connaissais pas. La manne que tu ne connaissais pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et le peuple a découvert la manne. Qu'est-ce que c'est la manne? C'était le pain que Dieu a donné à son peuple pendant les 40 ans. C'était exceptionnel. Tous les jours, Sauf le jour du sabbat, Dieu donnait du pain du ciel à son peuple. Et ça a duré pendant 40 ans, précisément les 40 années de désert, puisque le jour où ils sont entrés en Canaan, la Bible dit que la manne a cessé le lendemain de la Pâque. Donc la manne a duré ces 40 ans. Eh bien, nous avons des choses à apprendre avec Dieu, c'est que la manne, pour nous, ça nous parle d'une autre nourriture, ça nous parle de la parole de Dieu qui est notre manne spirituelle. C'est-à-dire que nous allons nous nourrir de la parole de Dieu tout au long de notre vie et ça va nourrir notre âme. De même que le peuple a été nourri de la manne, c'est-à-dire le pain de Dieu, de même nous allons nous nourrir de la parole de Dieu et nous allons traverser le désert de ce monde jusqu'à l'arrivée à la terre promise qui est pour nous la patrie céleste. La seule source de renouvellement, le seul réconfort que l'on va trouver dans ce monde, c'est dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, lisons la parole de Dieu, lisons-la tous les jours, ne serait-ce que quelques versets si vous n'avez pas le temps, mais prenez le temps, un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, prenez le temps de lire la parole de Dieu de manière suivie. Ça sera votre nourriture, ça sera l'élément réconfortant, ça sera votre force. Au verset 5, il est question maintenant du châtiment que Dieu donne dans le désert. Oui, il donne la nourriture, il nous donne le pain nécessaire, mais en même temps, il nous châtie pour notre bien. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, comme un homme châtie son enfant. Oui, parce que certains se fâchent quand Dieu nous châtie. Quand Dieu les châtie, ils se fâchent. Ils trouvent que ce n'est pas normal, et ce n'est pas juste. Et pourquoi moi ? Mais est-ce qu'un enfant, il n'agit pas de même quand ses parents le reprennent, quand ses parents le punissent, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Mais en réalité, c'est toujours pour leur bien, c'est pour les mener dans la bonne voie. Et quand on reproche à Dieu de nous punir, de nous faire du mal, eh bien c'est qu'on est des enfants ingrats, c'est qu'on est des enfants rebelles, des enfants insoumis. Mais quand on reconnaît qu'il nous châtie pour notre bien, c'est que nous sommes des enfants disciplinés, des enfants qui ont compris la main de Dieu. Alors nous devons, en nous approchant de Dieu, reconnaître qui il est et nous humilier devant sa face. Reconnaître que par ses épreuves, il va nous façonner, nous transformer. Vous voyez, je prends l'exemple du sculpteur, un sculpteur qui travaille la pierre. Pour travailler la pierre, il va donc tailler dans le roc et il va faire sauter des morceaux de pierre. Eh bien, il est nécessaire que ces blocs de pierre partent pour qu'apparaisse la forme que le sculpteur veut donner à son œuvre d'art. Il est nécessaire de faire sauter ces morceaux-là. Et bien sûr, Dieu, c'est notre divin potier, il va faire disparaître de nous des choses qui ne sont pas bonnes. Dans notre caractère, dans nos pensées, dans notre manière de vivre, nous avons des choses à transformer. Si on ne comprend pas l'enjeu du châtiment de Dieu qui est bon, on va être toujours frustré et on va toujours se plaindre en disant « c'est pas juste ». Pourquoi moi ? Et puis encore ces épreuves et les difficultés que Dieu permet, etc. En fait, on ne comprend pas, comme un enfant gâté qui ne comprend pas qu'il est repris par ses parents parce qu'il doit être discipliné, eh bien nous sommes à ce moment-là à côté du plan de Dieu. Donc nous devons le reconnaître, verset 11. Nous garder d'oublier l'Éternel, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, car lorsqu'on oublie le Seigneur, notre ferveur même diminue. L'amour pour Dieu diminue et nous n'avons plus l'enthousiasme. Nous n'avons plus le désir de nous rassembler, d'aimer nos frères, nos sœurs, de servir. Alors on n'arrive plus à lire la Bible, on n'arrive plus à prier, on dégringole. Avec le temps, c'est une lassitude qui s'installe. Quand vous oubliez Dieu, votre esprit finit par se détourner des commandements de Dieu et vous aimez le monde et les choses du monde. Vous poursuivez vos pensées. Mais notre part, c'est quoi ? Bien, c'est de nous souvenir constamment des paroles de Dieu, de l'entretenir dans notre esprit, dans notre cœur. Le désert aussi est hostile au verset 15. Il nous fait marcher par ce désert qui est grand et affreux, dit le texte. Un grand et affreux désert, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on ne sortira jamais de cet endroit. À nos yeux, il est hostile. À nos yeux, il est long. Il ne termine jamais. Et c'est essentiel quand on est dans le désert de développer une autre vision, parce que c'est vrai, c'est grand, c'est affreux. Mais si vous marchez uniquement par la vue, si vous ne voyez que les choses difficiles, si vous ne voyez que les choses qui ne fonctionnent pas et que les problèmes qui vous arrivent, en fait, vous allez être vite découragé dans votre marche chrétienne, vous allez vite abandonner. Or, dans le désert, il nous faut apprendre à voir les bonnes choses que Dieu permet, c'est-à-dire à voir la manne. Nous devons voir la manne, la parole de Dieu qui nourrit. Nous devons voir l'eau du rocher. Derrière l'eau du rocher, nous voyons Jésus-Christ qui pourvoit à nos besoins. Nous développons une vision spirituelle. Dans le désert, nous voyons la main de Dieu, nous voyons la grâce de Dieu. Et c'est ça qui nous permet de traverser le désert. C'est comme ça que le peuple a tenu 40 ans, avec la manne, avec l'eau du rocher. Il y a deux dangers permanents dans le désert, dit le texte. Premièrement, ce sont les serpents brûlants. Alors, c'est traduit aussi des serpents venimeux. Et nous savons qu'un serpent, il peut, avec son venin, tuer un adulte en moins de 2 heures. Les plus puissants, comme le mambra noir, il est capable de tuer un adulte en 2 heures. Et puis, ça c'est le premier danger, les serpents sont nombreux. Mais il y a aussi des scorpions dans le désert. Il dit, il y a des scorpions, troisième animal le plus meurtrier, et ils sont là. Donc, les serpents, les scorpions. Et pour nous, ça nous parle de nos ennemis qui sont invisibles. Ils sont là et ils attendent pour nous détruire. Alors c'est pour ça qu'on ne doit pas marcher par la vue, mais par la foi, revêtir les armes de Dieu, avoir sur nous toutes les armes nécessaires pour le combat spirituel, parce que les serpents, les scorpions, ils sont toujours là dans le désert et ils cherchent à nous nuire. Restons toujours humbles après la victoire, à la fin de ce texte. Garde-toi de dire en ton cœur, au verset 17, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Et là, je crois que c'est par ma force, c'est par mes capacités que je m'en suis sorti. Le problème du peuple d'Israël, c'est qu'il tombait dans cette forme d'orgueil et qu'il ne reconnaissait pas que c'était grâce à Dieu qu'il avait tout eu. À un moment donné, le peuple était tellement sûr de lui, lorsqu'ils avaient remporté la victoire à Jéricho, de manière extraordinaire, en faisant le tour de la ville, 7 fois les murailles s'étaient effondrées, ils avaient conquis Jéricho qui était une forteresse imprenable, mais c'était par la main de Dieu. Et derrière Jéricho, il y avait une nouvelle ville qui s'appelait Aï. Et dans cette ville-là, ils ont dit, ben, c'est pas la peine d'envoyer tout le peuple, ils disent à Moïse, vu la victoire qu'on a eue à Jéricho, bon, ils étaient un petit peu orgueilleux, ils disent, c'est pas la peine, envoie simplement 3000 personnes, ça suffira, et on va vaincre. Ah, ils étaient dans l'orgueil, ils étaient dans la fierté, ils étaient dans la vanité. Et pourtant, c'était des croyants. En plus, parmi eux, il y en avait un qui avait désobéi, il fallait dévouer tout par interdit à Jéricho, puis lui, il avait récupéré des vêtements, il avait récupéré de l'or, il fallait normalement tout détruire. Donc, il y avait de la désobéissance, il y avait de l'orgueil, il y avait de la vanité, et ils se sont dit, nous, Dieu est avec nous, on y va. À 3000, on va remporter la victoire. Eh bien, ça a été une catastrophe. Aïe, ça a été une défaite. Et ils ont perdu des soldats dans cette attaque. Et ils sont revenus, ils ont prié, ils ont cherché l'Éternel et ils se sont humiliés et ils ont compris qu'il fallait remettre en ordre. S'humilier, chercher l'origine du problème qui était l'interdit. Il y avait de l'interdit dans le peuple à cause de la désobéissance. Et alors, après, ils sont repartis et ils ont eu la victoire. Mais nous n'aurons pas toujours des victoires si nous ne mettons pas notre vie en ordre, si nous ne sommes pas humbles. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est par ma force, c'est par ma puissance que j'ai réussi. Non, déjà c'est l'orgueil, et même l'orgueil c'est le premier péché du diable. Lorsque Lucifer a été créé, qui était un ange de lumière, un des plus bels anges de la création, c'est l'orgueil qui lui est monté à la tête, il a dit, mais moi, je voudrais bien être l'égal de Dieu, j'aimerais être l'égal de Dieu. Et il a tout fait en sorte pour recevoir l'adoration comme Dieu. Et il a été précipité des anges, il est devenu Satan. Donc un ange orgueilleux, maintenant c'est Satan. Eh bien il pousse à l'orgueil, il pousse à chercher ces choses-là. Comme lui, il a été orgueilleux, il voudrait bien que nous soyons orgueilleux. Donc derrière l'orgueil, il y a toujours l'ennemi qui pousse à nous séparer de Dieu, à dire « c'est par ma force ». C'est moi qui accomplis. Non, nous devons le rejeter et rendre toujours gloire à Dieu. Je pense à un deuxième récit, c'est dans 1 Roi 17, où nous voyons comment Dieu va nourrir maintenant, puisque Dieu nous donne le pain quotidien, on a vu la manne. Dieu donne la manne dans le désert, quel que soit le désert dans lequel nous sommes. Et ici, on voit que Dieu va nourrir son prophète dans la sécheresse. 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers le torrent et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, et car il n'était point tombé de pluie dans le pays. D'abord, je remarque l'audace d'Élie. Élie, c'est un serviteur de Dieu, c'est un prophète. Il est rempli du Saint-Esprit, mais il est animé d'une audace spirituelle pour aller confronter le roi Akab. Et Jésus, quand on regarde le Nouveau Testament, il nous a équipés d'une puissance. Dans Luc 24, verset 49, Jésus dit « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. » Si c'était important pour les disciples, nous croyons que c'est important pour nous ce matin. Nous avons besoin d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Élie était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il n'aurait pas pu confronter Akab sans être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alors nous en avons besoin. Prions le Seigneur pour être chaque jour renouvelés, visités par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'Akab, ce mauvais roi, va être repris par un prophète. Et ce roi qui commettait l'idolâtrie dans le pays, eh bien, Élie va dénoncer son péché. Élie a des paroles de Dieu dans sa bouche, c'est-à-dire qu'il s'approche d'Akab en disant « L'Éternel est vivant ». Et quand vous êtes proche du Seigneur, il y aura toujours des paroles de Dieu dans votre bouche. Vous allez commencer à parler les paroles de Dieu. Ça, c'est les caractéristiques de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont proches de Dieu. C'est les paroles de l'Esprit, c'est les paroles de Dieu qui sont sur leur bouche. Élie ne dit pas « C'est moi le prophète Élie qui vient vers toi ». Il met Dieu en avant. Il met la puissance de Dieu en avant, la personne de Dieu en avant. Il ne vient pas en son nom. Et il annonce quelque chose de difficile. Et c'est parfois aussi le message des prophètes. Il doit reprendre, il doit corriger de la part de Dieu. Et là, il annonce une sanction comme « Akab, tu es dans le péché, tu as mis l'idolâtrie dans le pays, le peuple est idolâtre ». La sanction de Dieu, c'est qu'il y aura une sécheresse de plusieurs années sur le pays. Beaucoup dans le peuple suivaient les Baal et les Astartés. Et à ce moment-là, il fallait corriger le péché qui était commis. Il annonce donc une sécheresse. Et les paroles de Dieu qui sont sur sa bouche, elles seront sur notre bouche et nous aurons de l'assurance si nous sommes proches du Seigneur. Acte 4, 13. Regardez les disciples, ils ont fait 3 ans avec le Seigneur et ils parlent devant le Sanhédrin qui est l'autorité spirituelle de l'époque au niveau des Juifs. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà ce que Dieu nous donne, frères et sœurs, c'est de l'assurance dans les moments où nous avons besoin de confronter des oppositions, de confronter des Akab, de confronter des puissances spirituelles mauvaises, eh bien, nous avons de l'assurance qui vient d'en haut. Ensuite, Élie est dirigé par le Seigneur au bon endroit, c'est-à-dire vers le torrent de Kérit. Il devait fuir pour sauver sa vie, mais il aurait pu fuir n'importe quelle direction. Il aurait pu aller dans une caverne, il aurait pu se cacher dans la forêt, il aurait pu aller n'importe où. Mais, comme il aime le Seigneur, et qu'il écoute le Saint-Esprit, le Seigneur lui dit, mais c'est vers le torrent de Kérit qu'il te faut aller. Et c'est comme ça qu'il est conduit par Dieu pour aller au bon endroit. Et moi, je crois qu'il y a un torrent pour chacun de nous. Il y a un torrent de Kérit quelque part, et Dieu va nous conduire au bon endroit, et là, nous serons protégés pendant la sécheresse. Et d'ailleurs, pendant tout le temps de la sécheresse, il est auprès du torrent, donc il a de l'eau, et il va être nourri par les corbeaux. Dieu pourvoit nos besoins. Élie pouvait se demander, mais comment vais-je faire dans ce torrent? Il n'y a pas de magasin à côté? Il n'y a pas de quoi se nourrir, mais vous croyez que Dieu nous envoie quelque part pour nous mettre dans une impasse? Dieu avait déjà la solution pour son serviteur. Il avait déjà prévu les corbeaux qui allaient venir lui apporter la viande et le pain. Donc si Dieu vous dirige vers un endroit, croyez bien qu'il a déjà prévu toutes les solutions pour que vous puissiez être protégés et nourris. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas, parce que quand elle y arrive, il n'y a rien, mais en fait, Dieu sait déjà comment il va faire. Donc faisons confiance au Seigneur. Ainsi, ce texte nous montre que Dieu est souverain sur sa création. Ben voyez, les corbeaux, c'est étonnant quand même. Parce que dans la Bible, les corbeaux, c'est impur. Ce sont des animaux impurs. Les manières de faire de Dieu, elles ne sont pas les nôtres. Peut-être on aurait choisi une colombe. On aurait choisi un animal un peu plus... La colombe, c'est la paix. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais un corbeau, ce n'est pas très joli. Mais aussi, c'est un animal impur. C'est un animal impur. Donc, pour les Juifs... Il ne fallait surtout pas avoir de contact avec un corbeau. Eh bien, Dieu décide d'utiliser des corbeaux pour nourrir son prophète. Donc, Dieu nous prend à contre-pied. Et si vous cherchez à comprendre les méthodes de Dieu, vous serez vite bloqué dans vos raisonnements, parce que vous direz, oui, mais attendez, le corbeau, il dit, mais Dieu, le corbeau, c'est un animal impur, je ne vais quand même pas manger. Mais c'est Dieu qui l'envoie. Et Dieu... Voilà, il utilise des choses que lui désire utiliser. C'est à nous d'accepter. La Bible dit que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. On ne peut pas tout expliquer comment Dieu fait. On ne peut pas expliquer pourquoi il choisit l'un et pas l'autre, pourquoi il va choisir des corbeaux et pas des colombes. Mais en tout cas, on sait que ce que Dieu fait est bien et il nous faut l'accepter. Pas essayer de raisonner, mais accepter que les choses viennent par des corbeaux. Et peut-être pour vous, ça sera pareil. Il y a des corbeaux qui vont arriver. Et les corbeaux, c'est peut-être des personnes que vous ne connaissez pas. C'est peut-être des personnes que vous méprisez, des personnes qui pour vous n'ont pas de valeur. Un peu comme ces animaux impurs, vous ne les auriez jamais choisis. Mais Dieu a choisi des corbeaux pour vous et c'est ceux-là qui vont venir vous aider dans les moments de besoin. Le plan de Dieu n'est pas statique. En lisant ce texte, on pourrait se dire avec Élie, mais je suis au bon endroit. J'ai l'eau. Et j'ai les corbeaux, matin, soir, j'ai du pain et de la viande. Donc il aurait pu rester là toute sa vie à la limite. Mais au bout d'un moment, le torrent est à sec et les choses s'arrêtent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ça veut dire qu'il y a un temps donné où nous sommes dans une direction et c'était vraiment le plan de Dieu pour sa vie. Il fallait vraiment qu'il aille à Kérit. Mais à un moment donné, il faut qu'il parte. Et nous aussi, il faut comprendre qu'on n'est pas définitivement dans un endroit où Dieu nous a placés par Dieu. Mais c'est pour un temps. Et après, il y a une autre étape, et il lui fait comprendre, parce qu'au bout d'un certain temps, verset 7, le torrent est à sec, il y avait point de pluie dans le pays, et maintenant il fallait changer de direction. Et si vous lisez la suite, vous voyez qu'il va être dirigé vers Sarepta, où là c'est une veuve qui va le nourrir. Donc il y avait une autre étape dans le plan de Dieu pour sa vie. Maintenant, si vous vous dites, moi je reste là, je reste au torrent de Kérit, c'est là où il y a les corbeaux, c'est là où il y a l'eau. Peut-être que Dieu va faire revenir de l'eau maintenant ou va faire encore venir des corbeaux. Non, c'était un temps. C'est arrêté. C'est un peu comme la manne. La manne s'est arrêtée. Vous pouviez attendre la manne. Au bout de 40 ans, c'est arrêté, c'est fini. Eh bien là, les corbeaux, c'est fini. L'eau du torrent, c'est fini. Il y a une autre étape. Et il nous faut être prêts aussi à être à l'écoute de Dieu et ne pas rester bloqué en se disant, bon, Dieu m'avait dit ça, donc je reste là et je me bloque là. Non, restons à l'écoute de Dieu. Comme Élie, il est parti. Et il a connu une autre étape, une autre direction dans sa vie. Il dépendait toujours de la voix de Dieu. Je termine avec un dernier exemple. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 6. C'est la multiplication des pains. Dans Jean chapitre 6, on connaît bien ce récit de la multiplication des pains. Les disciples étaient auprès du Seigneur. Une grande foule était là et il fallait la nourrir. Dans Jean chapitre 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, où mer de Tibériade, une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, mais où achèterons-nous des pains pour que les gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus lui dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait là, dans ce lieu, beaucoup d'herbes. Et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Puis Jésus prit les pains et rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent et que rien ne se perde. » Et ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. On voit ici que les disciples, d'abord, ils veulent renvoyer la foule, ce qui paraît logique, puisqu'il n'y a rien à manger, le lieu est désert, ils sont très nombreux, il est tard, ça ne sert plus à rien de rester. Les disciples, donc, ont un raisonnement parfaitement logique, ils disent au Seigneur, renvoie la foule. Entre parenthèses, ils savent eux-mêmes, dans leur logique, qu'est-ce que le Seigneur devrait faire. Et nous aussi, dans notre propre logique, on sait très bien comment Dieu devrait faire, dans beaucoup de situations. Mais Jésus les reprend et leur dit, mais ce n'est pas la peine de les renvoyer, donnez-leur vous-même à manger. Et là, les disciples se regardent et disent, mais comment on va faire? Ça n'est pas logique, on ne peut pas leur donner à manger. L'ordre de Jésus n'est pas logique sur le plan de la logique humaine, mais il est logique sur le plan d'une autre logique, et on peut parler de la logique de la foi. La logique de la foi, elle est différente de la logique humaine. Et dans la logique de la foi, vous obéissez sans tout comprendre, vous croyez les promesses de Dieu et vous voyez le miracle s'accomplir. Ça, c'est une autre logique. Et Jésus, lui, il se place sur la logique de la foi et il dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Dans cette logique-là, c'est possible. Au verset 6, il est dit que Jésus éprouvait la foi de Philippe. Et Jésus, parfois, éprouve notre foi. On aime bien être tranquille, nous. On aime bien qu'il n'y ait pas d'épreuve et qu'il n'y ait pas de difficulté. Il n'y a pas de défi. Mais Jésus éprouve la foi de Philippe. Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient assez à manger? Comment on pourrait faire? Mais il n'y a pas de solution. Et Philippe raisonne avec 200 deniers, c'est-à-dire 200 jours de salaire, on n'aurait pas assez pour payer le pain pour cette multitude. Et en regardant notre situation, le peu que nous avons, nous disons, mais Seigneur, on ne pourra jamais y arriver. C'est la conclusion de Philippe. Ce n'est pas possible. Mais Dieu veut nous apprendre à changer de regard, à ne pas regarder le peu que nous avons, mais à regarder notre grand Dieu qui pourvoit. Et il fallait se détacher des difficultés pour regarder vers Dieu. Une autre vision, la vision du miracle. Verset 9, André, lui, il vient avec une autre solution. Il dit, mais moi j'ai trouvé un enfant, il a 5 pains et 2 poissons. En même temps, il apporte ça au Seigneur, il dit, mais qu'est-ce que ces 5 pains et 2 poissons avec la multitude qui est là? Ça ne marchera jamais. Mais je remarque qu'en tâtonnant et en cherchant dans le peu qu'ils ont, en fait, ils sont conduits à donner à Jésus les 5 pains et les 2 poissons, mais il fallait le faire. Parce que s'ils n'avaient pas cherché les 5 pains et les 2 poissons, il n'y aurait pas eu la multiplication des pains et des poissons. Il fallait donc apporter le peu qu'ils avaient au Seigneur, c'était la base du miracle, et commencer à faire confiance au Seigneur et lui donner les 5 pains et les 2 poissons. Donc ne méprisons pas les petits commencements. Jésus attend toujours le premier pas de foi. Alors c'est peut-être un petit pas de foi qu'on va faire. On va apporter au Seigneur le peu que nous avons. Mais en fait, le Seigneur va utiliser cela pour faire son œuvre. Et le Seigneur fait asseoir les gens par rangées de 50. C'est-à-dire qu'il s'attend par la foi à une distribution massive. Donc on répartit les gens par 50 pour la distribution. Il n'y a toujours pas de multiplication des pains. Mais Jésus s'attend à la multiplication des pains et il sait qu'elle va arriver. Donc ça nous parle que nous ne devons pas vivre seulement dans le présent, mais vivre avec l'espérance que Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire la multiplication. Donc je prépare déjà les choses pour la multiplication qui arrive. Ça, c'est l'attitude de Jésus. Jésus, au verset 11, il tourne les yeux vers Dieu et il rend grâce alors qu'il n'a que 5 pains et 2 poissons. Il n'y a pas encore eu de miracle, mais déjà il rend grâce à Dieu. Ça, c'est une autre attitude, parce que le principe, c'est que Jésus rend grâce à Dieu alors qu'il n'a rien, et que nous, souvent, nous attendons d'avoir quelque chose pour rendre grâce à Dieu. C'est une autre logique, c'est une autre perspective. C'est aujourd'hui, commençons à rendre grâce pour le peu que nous avons, et attendons-nous à la bénédiction de Dieu. Mais comme Jésus, entrons dans la logique de la foi. On prend les 5 pains et les 2 poissons et on dit « Merci Seigneur pour les 5 pains et les 2 poissons ». Et puis ensuite, le miracle a pris place. Les pains et les poissons se sont multipliés, mais ça c'est l'œuvre de Jésus, c'est le miracle. 5 000 hommes, dit le texte, c'est-à-dire sans compter les femmes et les enfants, ce qui fait en gros 15 000 personnes. Alors imaginez, le texte il dit, ils n'ont pas seulement été nourris, hein, ils ont été rassasiés. Ça vous est déjà arrivé d'être rassasié? Par exemple, quand vous allez au restaurant, dans ces fameux restaurants où c'est service illimité, c'est-à-dire vous payez la somme et vous mangez autant que vous voulez. Parce que pour en rassasier certains, il en faut. Il faut plus que 5, il faut plus que une demi-baguette et 2 poissons, il en faut, hein, pour les rassasier. Dans ce genre de restaurant, là, vous entrez taille 38, vous ressortez taille 46. Vous êtes rassasié. Eh bien, dans la présence de Dieu, vous allez être rassasié de sa grâce, de sa bonté. Psaume 36, verset 9. « Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Ils ont été rassasiés de pain et de poisson, c'est-à-dire qu'ils ont mangé tant qu'ils ont voulu. Et il y en a sûrement qui en ont profité. Ils aiment bien manger, ils ont mangé. Eh bien, ils étaient rassasiés. Eh bien, nous pouvons nous-mêmes nous rassasier de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, et être bien dans sa présence. Les disciples ont encore rempli 12 paniers des morceaux qui restaient. Pourquoi 12 paniers? Un pour chaque disciple incrédule qui disait « c'est pas possible, ils sont trop nombreux, on n'a pas assez d'argent, on n'y arrivera pas ». Ils étaient incrédules. Eh bien, Jésus les a laissés avec chacun un panier de restes de pain qui étaient encore disponibles. Et comme cela, tout cela n'a pas été perdu, mais en même temps, ça nous montre que Dieu a pourvu avec générosité, avec abondance, au-delà même des besoins qui étaient déjà très importants. La puissance de Dieu, en fait, est illimitée. Il n'y a que notre incrédulité et notre doute qui va bloquer et freiner la puissance de Dieu, comme à Nazareth, hein, où Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Mais Jésus veut faire davantage, attendons-nous à la grâce de Dieu. Il va donner le pain quotidien. On va prier quelques instants. Je vais inviter Delphine à venir pour accompagner ce moment. On a vu combien Dieu pourvoit par la manne, pour le désert. Combien Dieu pourvoit avec des corbeaux, alors qu'on est dans la sécheresse. Combien Dieu multiplie les pains et les poissons, alors qu'il y a si peu. Encore aujourd'hui, le principe est le même. C'est que dans tous les cas, il nous faut venir à Dieu avec la foi. Vous avez peut-être besoin de travail, venez à Dieu avec la foi. Vous êtes dans une situation sans issue, venez au Seigneur avec votre foi. Vous êtes peut-être malade ou affaibli, venez à Dieu avec votre foi. Vous êtes peut-être dans une situation qui vous a égaré ou vous priez pour un enfant qui s'est éloigné du Seigneur, venez avec votre foi. Dieu connaît nos difficultés et il sait comment il va pourvoir. Il sait où sont les corbeaux, il sait comment multiplier les pains et les poissons, il sait comment envoyer le pain du ciel qui va nous restaurer. Merci encore pour ta parole. Nous voyons combien elle est une source de réconfort et une source de bénédiction dans l'épreuve. Elle est une source aussi pour nourrir notre âme, afin que nous ayons la paix dans l'épreuve, afin que nous soyons renouvelés pendant la marche. Et je te prie pour chacun, Seigneur, afin que cette parole produise du fruit dans les cœurs et que ton nom soit glorifié. Merci pour ta parole. Merci pour ce pain quotidien. Merci parce que tu pourvois à chacun de nos besoins. Et nous voulons focaliser nos yeux sur toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.